La revue de presse, voici Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Pierre, bonjour Patricia et bonjour à tous. Et d'abord, bonne année. Oui, je sais, on est déjà le 13, mais je crois qu'on a jusqu'à la toute fin du mois pour adresser ses vœux. Je vous souhaite le meilleur pour les 12 mois qui viennent et surtout... la santé, c'est très important, la santé. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent à ceux qui nous racontent leur malheur. Un copain vous informe qu'il a perdu son boulot, que sa femme l'a quitté, qu'on lui a volé sa voiture et que son appartement a brûlé lors d'un incendie. Et là, vous lui demandez, sinon la santé, ça va? Oui, la santé, ça va. Bon, bah, tant qu'il y a la santé. Un sujet important, disions-nous, mais un sujet qui, par moments, suscite des tensions. La preuve, ce matin... dans la presse régionale, l'Indépendant nous décrit ainsi les déboires d'un malade de 67 ans. Il ne trouve pas d'infirmier disponible à Perpignan. Il en a contacté 40 pour des soins à domicile, mais tous ont refusé. À Perpignan, recherche infirmier désespérément. Désespoir d'un côté, grand malaise de l'autre. Cette fois, c'est à la une de l'Union et de l'Ardennais, des médecins et des pharmaciens qui témoignent de leur ras-le-bol. Ils n'en peuvent plus de se retrouver face à des patients irascibles. Certains, de plus en plus nombreux, peuvent même être violents. Pour sa part, la Provence nous informe que des punaises ont envahi plusieurs services de l'hôpital de la Timone. Des punaises de lit, d'abord repérées dans une chambre et qui ont entraîné le transfert de deux services de l'établissement marseillais. Et puis, à la une de l'Éclair, le décès d'un petit garçon. Ça s'est passé à Lourdes et c'est la grippe qui l'a tué. Un enfant de 9 ans foudroyé par la grippe, confirme la Nouvelle République des Pyrénées. Oui. La grippe est une maladie mortelle.
Frédéric, de son côté, aujourd'hui, le Parisien revient sur un accident mortel. Les premiers éléments de l'enquête sur le drame de Mias.
Un car scolaire fauché par un train sur un passage à niveau. C'était il y a un mois, le 14 décembre. 6 collégiens sont morts, 6 autres grièvement blessés. Et Timothy Boutry a eu accès au dossier. Le compte-rendu des auditions des témoins, le premier rapport d'enquête. Or, ce dernier souligne... le bon fonctionnement du passage à niveau. Il privilégie donc l'hypothèse d'une barrière fermée quand le car s'est engagé. Une terrifiante étourderie de la conductrice. Ce que confirment d'ailleurs des automobilistes qui patientaient de l'autre côté de la voie ferrée. « Je suis formel », a notamment rapporté l'un d'eux. La conductrice du car a forcé le passage. Elle a poussé tout doucement la barrière alors qu'elle était en position baissée et que le signal lumineux clignotait en rouge. Les conducteurs du TER ont dit exactement pareil. En revanche... les témoignages des enfants rescapés divergent. Sur les 12 premières auditions, 6 élèves confient n'avoir rien vu. 2 ont vu la barrière baisser et le car la casser. Un autre dit qu'elle s'est baissée sur le car avant de se relever. Et les 3 derniers ont affirmé que la barrière était levée. C'est d'ailleurs ce que ne cesse de dire la conductrice du car. Son portrait dans le journal, une mère célibataire de 47 ans, calme, méticuleuse, passionnée par la conduite. Et elle n'a pas varié dans ses déclarations à chacune de ses auditions. Il n'y avait, dit-elle, ni voyant ni barrière. J'engage la première, là il faut aller doucement, après ça je réaccélère, mais ensuite il n'y a plus rien. Elle n'a plus de souvenirs. Jusqu'à ce qu'elle se réveille, le visage couvert de sang, et qu'elle voit des sièges du car à découvert et le corps d'un enfant par terre. J'entendais crier partout, relate-t-elle en pleurs. On m'a dit que le bus s'était fait couper en deux par un train, mais je ne comprenais pas, je n'avais pas vu de train. Une semaine après l'accident, elle a été mise en examen pour homicide et blessure involontaire par imprudence. Elle est dévastée, confie son avocat, et toujours hospitalisée dans une unité psychiatrique.
Il est 8h35, c'est la revue de presse avec Frédéric Pommier. Frédéric, Donald Trump, lui, va très bien.
Oui, c'est du moins ce que vient d'affirmer le médecin de la Maison Blanche. Après avoir effectué son tout premier bilan de santé en tant que président, cela dit... il ne sait pas lui prêter un examen psychiatrique alors que de plus en plus d'éditorialistes, pas uniquement américains, s'interrogent aujourd'hui sur sa santé mentale. Une interrogation renforcée par ses derniers propos concernant les migrants en provenance d'Afrique, d'Haïti, du Salvador, des gens qui viennent de pays de merde, aurait-il dit lors d'une réunion avec des élus. Torrent d'indignation à travers la planète, propos racistes, abjects, blessants. Dans la nuit, c'est l'Afrique entière qui a exigé des excuses. Les 54 ambassadeurs du groupe africain à l'ONU ont demandé à Donald Trump de retirer ce qu'il avait dit, condamnant des remarques scandaleuses et xénophobes. Mais on le sait, ce n'est pas la première fois que Trump insulte des pays ou bien des dirigeants depuis son élection. Sur le Huffington Post, un petit catalogue, il a insulté le Premier ministre australien, cogné sur la Chine, sur l'Allemagne, sur l'Iran, sur la Corée du Nord, le Royaume-Uni, la France, le Mexique. Les Mexicains sont des violeurs, avait-il lancé au moment de sa campagne. Mais bon, à part ça, Il va très bien.
Frédéric, un autre homme est dans la tourmente ce matin, c'est le mystérieux patron de Lactalis.
Le groupe Lactalis, premier groupe laitier mondial qui fait la une d'une bonne partie des journaux ce matin. Lait contaminé, la colère monte, titre ainsi la presse de la Manche. La crise du lait fait tache d'huile, confirme la Nouvelle République, tandis qu'Ouest-France apporte cette précision du lait contaminé exporté dans 66 pays, et un cas de salmonellose a été relevé en Espagne. Un grand dossier aussi dans Libération, Lactalis, le lait sur le feu. Sous la pression du gouvernement, des lots contaminés par la salmonelle ont finalement été retirés par le fabricant. Et le quotidien propose une enquête sur une entreprise, l'une des entreprises les plus secrètes de France, une entreprise où l'on cultive donc l'opacité de père en fils. C'est une entreprise familiale. Lactalis refuse notamment de publier ses comptes et préfère payer des amendes. Et son dirigeant, Emmanuel Beignet, 11e fortune française, refuse toutes les interviews. La dernière photo qu'on a de lui date de 2007. Et c'est donc celle-ci qu'on retrouve ce matin dans Le Parisien, comme dans Libération, une photo, des portraits d'un dirigeant ultra discret que la majorité de ses salariés n'a vraisemblablement jamais croisé. Il a un château en Mayenne, il a un appartement dans le 7e arrondissement de Paris, une maison sur l'île de Ré, un beau chalet à Courchevel. Beaucoup d'argent donc, mais aucune transparence, notamment depuis qu'a éclaté le scandale du moment. Édito de Libération, il est signé Laurent Geoffrin. Et il écrit que les dirigeants de la multinationale ont manifestement sous-estimé le risque représenté par la salmonelle. La logique de la rentabilité maximale les a conduits à freiner les mesures de sauvegarde qu'ils étaient tenus de prendre dès la révélation de ce dangereux dysfonctionnement. Emmanuel Beignet a sûrement pensé qu'un scandale sanitaire pouvait se régler comme une fusion-acquisition, renchérit Maurice Bontinck dans la Charente Libre, tandis que Gilles Grandpierre de l'Union évoque un incroyable enchaînement de lâcheté. Le lait pourtant, le lait Pierre. C'est la santé. Normalement, c'est la santé. Et le sport également. On le lit dans le Figaro ce matin. Une enquête sur ceux qui fréquentent des salles de remise en forme. Constat, pas très étonnant. Eh bien, ils sont plus en forme que ceux qui ne pratiquent pas. Plus minces aussi en général. Mais attention tout de même. Dans Le Progrès, une enquête. Le sport, une pratique addictive qui peut rendre fou. On appelle ça la bigorexie quand on ne peut plus passer d'activité physique. Churchill n'était pas atteint de
la bigorexie.
Ben ça, avant que ça vous atteigne, vous l'en dites, non.
Nos sports, disait Churchill, ce qui ne m'empêche pas, cependant, de vous souhaiter de nouveau la santé.
Mais moi, je fais du vélo. J'aime bien. C'est du sport.
Du sport. C'est un sport excellent.
Absolument. Le long de la Seine.
Avec un vélo qui est dans la cave.
Ah, mais non, non, mais je le vais
sortir. Ah, vous l'avez sorti de la cave.
Je le sors au printemps et j'irai me promener le long de la Seine.
Nous irons tous les deux.
Les voies sur berge. C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.